Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous, à l'écoute de ce bulletin d'informations. Au sommaire aujourd'hui, la République tchèque soutient l'octroi du statut du pays candidat à l'UE à l'Albanie. En République tchèque, la productivité du travail stagne et la Cour administrative suprême propose la suppression du seuil de 5% aux élections européennes. Ce mardi, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont approuvé l'octroi du statut du pays candidat à l'Albanie. Le commissaire tchèque à l'élargissement Stefan Füle a salué les réformes entreprises par Tirana. La décision définitive à l'égard de l'Albanie sera prise ce vendredi au sommet des chefs d'État et de gouvernement réunis à Bruxelles. Le premier ministre Bohuslav Sobotka a souligné que la République tchèque ne bloque pas l'acquisition du statut du pays candidat à cause du contentieux qui l'oppose à la société énergétique ČEZ dont l'État tchèque est le principal actionnaire. Or, ce mardi, l'entreprise a annoncé d'avoir trouvé un accord avec Tirana. L'Albanie a demandé de devenir candidat à l'UE en 2009. Selon les données révélées ce mardi par l'Office tchèque des statistiques, la productivité du travail en République tchèque stagne. En 2013, la productivité par heure était au même niveau qu'en 2008. Si elle stagne ces derniers 4 ans, cela n'était pas toujours le cas. Jusqu'en 2008, l'Office tchèque des statistiques enregistrait une hausse de productivité d'environ 3,6% tous les ans. Ainsi, en 1995, la valeur du travail produit par heure a été de 161 couronnes. Celle de l'année dernière étant supérieure de deux tiers, s'élève à 428 couronnes, soit environ 15,85 €. La croissance de productivité du travail permet d'assurer la croissance économique, même si le nombre d'heures du travail est en baisse. La Cour administrative suprême proposera à la Cour constitutionnelle d'abolir le seuil électoral de 5% pour les élections au Parlement européen. La Cour administrative va ainsi donner satisfaction à la plainte qu'ont portée les Verts et les Pirates suite aux élections qui se sont tenues en mai dernier. Le parti des Pirates avait obtenu 4,78% et ne sera donc pas représenté au Parlement européen. En absence du seuil, il aurait pu envoyer un eurodéputé à Bruxelles. La juridiction suprême devrait aussi traiter une autre plainte similaire des pirates au sujet de la suppression du seuil électoral pour les élections législatives. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle allemande a aboli le seuil pour les élections européennes en février 2014. Or, le Premier ministre Bohuslav Sobotka s'est déclaré opposé à une possible suppression de ce seuil. La médiateure de la République, Alena Shabatova, alerte contre l'existence des centres de soins sociaux illégaux. Destinés aux personnes âgées atteintes de la démence, ces centres opèrent dans des conditions sanitaires et hygiéniques insatisfaisantes avec un personnel non formé. Les enquêteurs du bureau de l'Ombudsman ont contrôlé 7 centres de soins pour des pensionnaires. Néanmoins, le nombre total de ces institutions qui fonctionnent sans permission est inconnu. Alena Shabatova appelle à ce que tous les établissements passent par le processus d'autorisation et à ce que l'État ordonne la fermeture des institutions qui échouent de l'obtenir. Par une promenade poétique dans la ville de Zdjar-Nazazavo, à la mi-chemin entre Prague et Brno dans la région de Vysočina, commencera le 5 juillet la deuxième édition du Festival de théâtre de mouvement et de la musique Correspondance. La première manifestation du festival, intitulée Les roues dansantes, sera orchestrée par deux chorégraphes français, Pierre Nadeau et Dominique Boivin. Le même jour, le contre-ténor français Sébastien Fournier se représentera dans la pièce Arthur, jouée au château de Zdjar-Nazazavo. Le festival propose une dizaine de spectacles tout au long de la journée du 5 juillet. Et nous terminons maintenant sur un mot de météo. Ce mercredi, jour de la fête des Ivan, le ciel est partiellement couvert sur tout le territoire, mais les modèles météorologiques prévoient des grandes disparités. Ainsi, à l'ouest, il faut compter avec la pluie et avec les températures qui ne dépassent pas les 19 degrés. À l'est, au contraire, quelques rayons de soleil se font encore sentir avec les températures plus agréables qui oscillent entre 19 et 22 degrés pour les maximales. Lucie Drexelova vous remercie d'avoir suivi ce bulletin d'information. Restez à l'écoute pour la suite de notre programme. C'est tout de suite sur Radio Prague avec Lena Sabadell.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour, dobry den et bienvenue à tous nos auditeurs de Radio Prague à l'écoute de ce magazine consacré à l'actualité tchèque en langue française. Merci tout d'abord à Lucie Drerselova pour son bulletin d'information. Au sommaire de ce mardi 24 juin, nous allons nous intéresser au dédommagement record infligé par la justice à l'hôpital de Prague Vinohrady pour un accouchement raté avec un reportage de Sonia Jarošová. Nous parlerons ensuite de la nouvelle station de recherche des scientifiques tchèques sur l'île de Spitzberg au cœur de l'océan Arctique. Pierre Maignan nous en dira davantage dans quelques instants. Enfin, dans la deuxième partie de notre émission, une rediffusion d'une émission de notre rubrique Panorama en date du 13 décembre 2011 sur le thème du film « Une trop bruyante solitude » de Vera Kaïs. Anne-Claire Veluire nous en offrira un entretien avec la réalisatrice. Suite au verdict du tribunal de Prague 10 prononcé ce lundi, l'hôpital de Prague Vinohrady devra verser un dédommagement record aux parents d'un garçon né paralysé à cause de la négligence d'un médecin inexpérimenté. Le montant des indemnités équivaut à 1,1 million d'euros, ce qui représente quasiment le double des sommes versées jusqu'ici dans des situations similaires. S'ensuit dans les médias tchèques un débat qui mêle à des éléments purement matérialistes des questions sociétales plus importantes. La santé a-t-elle un prix ? Sonia Jarošová nous en dit plus sur le sujet.
L'enfant, âgé aujourd'hui de 5 ans, est paralysé, aveugle et sourd-muet. Alité depuis sa naissance, sa mère l'alimente au moyen d'une sonde gastrique. Pourtant, selon la décision encore non valide du tribunal du 10e arrondissement de Prague, il aurait dû naître sain. La faute serait à un jeune médecin inexpérimenté qui aurait négligé les signes prénataux indiquant la nécessité de procéder à une césarienne. Par extension, la responsabilité relève du département de gynécologie et d'obstétrique de l'hôpital de Vinohrady. Celui-ci devrait maintenant indemniser les parents à hauteur de 30 300 000 couronnes, une somme jamais déversée dans ce cas de figure. Représentant légal de la famille, l'avocat Antonin Tunko explique la façon de chiffrer le montant demandé par la partie lésée.
Nous avons abouti à ce chiffre en nous basant sur le rapport d'expertise élaboré à la demande du tribunal de Prague 10. Celui-ci repose sur un système de points qui évalue les différents préjudices, celui de la souffrance physique et morale, le handicap social ou encore le coût des soins. Sachez par ailleurs que les spécialistes et universitaires de l'université Charles de Hradec Králové avaient communiqué avec les différents départements médicaux, la neurologie, l'ophtalmologie, etc. pour appliquer correctement le système de points. Ensuite, c'est un calcul simple, nous avons additionné les points, multiplié le tout selon l'article 7 de la loi en vigueur et nous avons obtenu la somme en question.
Cependant, il s'agit d'une première dans la pratique juridique, car le montant le plus élevé payé pour une erreur médicale par un hôpital jusqu'ici était de 18 millions de couronnes. Au cours des 10 dernières années, les dédommagements ont augmenté considérablement, ce qui a résulté en l'augmentation proportionnelle des assurances des hôpitaux. Est-il possible de mettre un prix à la santé humaine ? Le vice-président de l'Union des magistrats, Tomáš Novosad, explique.
C'est bien évidemment très difficile et extrêmement contraignant. Néanmoins, c'est possible et les tribunaux sont là justement pour se prononcer sur le calcul du dédommagement dans ce genre de situation. Le juge doit considérer tous les aspects de l'affaire de façon à la fois décente et honnête. Pour déterminer le montant d'un tel dédommagement, il doit en premier lieu se pencher sur le dommage subi par la partie lésée.
K jak závažnému poškození zdraví u toho poškozeného člověka došlo.
La situation de l'obstétrique est toutefois assez délicate par rapport aux autres branches de la médecine. Sans remettre en question la responsabilité de l'hôpital de Vinohrady dans cette affaire, l'obstétricien et directeur du centre périnatologique tchèque Petr Velebil souligne un fait important soulevé par l'accroissement des dédommagements.
Zejména porodnictví, tam, kde vlastně populace očekává,
Le cas de l'obstétrique est particulier dans ce sens où les gens s'attendent à un travail sans la moindre faille. Mais même là, la nature est plus puissante que l'homme et il se peut que même avec les méthodes actuelles, les médecins en charge de la parturiente ne peuvent pas empêcher une complication qui survient au dernier moment. C'est pourquoi c'est un domaine médical très sensible. Si l'on crée une spirale infernale de dédommagement très élevé, alors les étudiants en médecine les plus responsables et les plus prudents vont éviter de se spécialiser dans l'obstétrique.
Les scientifiques tchèques disposent désormais d'une station de recherche à Spitsberg, la plus grande île de l'archipel norvégien du Svalbard, située en plein cœur de l'océan Arctique, entre la Laponie et le pôle Nord. Depuis 7 ans, les chercheurs tchèques s'y relaient régulièrement pour y étudier l'écosystème et l'impact de la fonte des glaces sur la nature arctique. Administrée par l'Université de Bohême du Sud, la nouvelle installation doit accueillir successivement 3 groupes de 20 chercheurs et étudiants durant tout l'été. Reportage de Pierre Maignan.
C'est dans un jour permanent estival que la première équipe de scientifiques tchèques est arrivée dans sa station flambant neuve dans la ville de Longyearbyen qui, forte de ses 2000 habitants, concentre l'essentiel de la population de l'archipel. Flambant neuve, la station, qui a coûté quelque 30 millions de couronnes, un peu plus d'1 million d'euros, ne l'est pas réellement. Directeur du centre d'écologie polaire et leader de l'expédition, Josef Elster explique.
En fait, nous avons acheté une maison familiale qui a aussi accueilli un commerce. Un artisan a réaménagé cette maison pour nous, avec notamment l'installation des laboratoires. Donc, d'un point de vue logistique, cela n'a pas été très compliqué. En revanche, cela a été plus complexe au niveau des négociations avec le gouvernement norvégien.
Finalement, après avoir précisé la localisation et les futurs usages de la station de recherche, les Tchèques ont reçu le feu vert et peuvent désormais étudier la faune et la flore, une végétation de type toundra de l'archipel avec plus de précision grâce à leurs nouveaux outils. Josef Elster poursuit.
Il y a 2 laboratoires dans les entrailles de la station qui permettent de réaliser un travail de bon niveau. Il est possible d'y loger 20 chercheurs et étudiants. Les laboratoires disposent d'un matériel de pointe qui nous offre la possibilité d'effectuer des analyses directement sur le terrain.
À ces laboratoires, il faut désormais ajouter 2 stations météorologiques. Les scientifiques venus de différentes disciplines, microbiologie, zoologie, botanique, mais également glaciologie, climatologie ou encore géologie, connaissent l'archipel pour y avoir régulièrement effectué des missions estivales depuis 2007. Le choix de Svalbard n'est d'ailleurs pas dû au hasard, ainsi que l'explique Josef Elster.
La plupart des États européens qui ont un intérêt pour l'étude de l'Arctique ont une station au Svalbard à Spitsberg. La République tchèque a adopté cette stratégie et étudie ce territoire. Celui-ci est avantageux au moins pour 2 raisons. D'abord, c'est l'archipel arctique le plus proche de l'Europe. Ensuite, du point de vue du changement climatique, Svalbard est une terre qui se modifie rapidement. C'est pourquoi on a fait appel à nous pour étudier à long terme ces changements.
Ces travaux s'inscrivent dans une perspective plus large, celle de la constitution d'une vaste base de données dans le cadre d'un projet international chapeauté par l'Institut norvégien polaire et répondant au doux nom de diversité biologique et climatique de l'Arctique. Avec leur nouvelle station, les scientifiques tchèques, contraints jusqu'à présent de mener leurs recherches durant les 3 mois de l'été relativement doux, pourraient désormais envisager de les élargir dans le temps. C'est ce qu'espère Josef Elster.
À l'avenir, nous comptons allonger progressivement la durée de notre saison. Nous aimerions également profiter de la période estivale qui est pour nous très importante au regard des questions que nous nous posons.
Le projet dispose de 4 ans pour répondre à ces questions grâce au financement du ministère tchèque de l'Éducation.
Enfin, pour finir, dans la rubrique Panorama cette semaine, une rediffusion de notre émission du 13 décembre 2011, présentée par Anne-Claire Velluir, avec un entretien avec Vera Kaïs, réalisatrice du film « Une trop bruyante solitude ». Alors que Bohumil Hrabal naissait il y a 100 ans, retour sur le film « Une trop bruyante solitude », une œuvre adaptée de son roman éponyme, avec dans le rôle principal l'acteur français Philippe Noiret. Diffusé en France en novembre 2011, le film n'était pourtant pas une nouveauté en République tchèque, puisqu'il était sorti déjà en 1994. Alors, pourquoi ce décalage ? Cela fait en réalité bientôt 20 ans que la réalisatrice d'origine tchèque, Vera Kaïs, exilée en France depuis 1967, se battait pour récupérer côté français les droits de son film, qui était par ailleurs la première coproduction franco-tchèque de l'après-1989. Un combat de toute une vie donc pour Vera Kaïs.
Panorama.
Panorama.
C'est une très longue histoire parce que moi j'avais lu le livre en 1980. Et ce texte m'a traversé. Je l'ai lu dans un wagon la nuit. J'allais de Francfort à Rome. J'habitais à Rome à l'époque. Et j'ai lu cette nouvelle. Elle m'a traversé comme une sorte d'épée. Elle m'a chauffé l'âme. Je trouvais ça tellement extraordinaire. Et quand j'ai fermé le livre, je savais que je ferais un film. J'avais une certitude. Certains gens, quand je racontais cela, prenais ça pour de l'arrogance, mais c'était pas, je n'avais pas d'opinion autour de moi-même. Je savais que je ferais de ce texte un film. J'ai attendu, je sais pas, 13 ans pour avoir les droits. Après, nous avons tourné le film et puis malheureusement le producteur français, nous devions tourner pendant, il me semble 9 semaines, on a tourné beaucoup moins. Puis le film était enlevé au montage. Beaucoup de scènes que nous avons tournées n'ont pas été montées. Il a rapatrié le film à Paris. Nous avons fait une version tchèque parce qu'on avait promis à Bohumil Hrabal, on voulait lui faire cadeau pour son anniversaire. Donc mon producteur m'avait dit, faisons une version provisoire pour que Bohumil Hrabal puisse le voir. On avait peur que se soucie de ce qu'il avait fait d'ailleurs plus tard, mais il en parlait constamment. Donc j'avais accepté un sort de compromis, faire une version, et il m'avait dit toujours, je vais trouver de l'argent, on va finir le montage et tout ça. Et puis j'ai appris un jour que le film passait à la télévision. Donc je téléphonais à Canal+, en disant comment ça se fait, que le film passe à la télévision. Il n'a pas eu la première, et ils me disent, oui, il a eu une première il y a un an, dans un petit cinéma à Versailles. J'étais pas invité, Philippe Noiret n'était pas invité. Donc on ne sait pas si c'était une sorte de, comment je peux dire, combine financière. Ou je n'ai pas compris pourquoi le producteur n'a pas essayé de distribuer le film. J'avais demandé, j'ai essayé de comprendre la situation. Il refusait tous les contacts avec moi. Et puis, la Société des auteurs dramatiques m'a payé l'avocat. Et j'ai récupéré les droits de film en 2003. Droit intellectuel sur le film, mais le producteur ne m'a pas rendu ni le négatif ni rien. Donc j'avais droit de vendre, d'utiliser le film, de le distribuer, mais je n'avais pas le film. Et donc les producteurs tchèques ont perdu beaucoup d'argent à cause de la. Je pense qu'ils n'ont pas été payés par le producteur français, entièrement ou totalement, je ne sais pas dans quelle proportion. Ils étaient très nobles parce qu'ils m'ont donner des négatifs, mais il me manquait la voix de Noiret. Noiret, entre-temps, est décédé. Et par pur hasard, on a retrouvé une petite cassette où il y avait le mixage, pas tout à fait celui-ci, la version originale. Enfin, donc, si vous voulez, il a fallu une patience et un boulot détective pour le reconstituer. Malheureusement, les chutes du négatif étaient détruites. Donc, voilà, ce film avait une vie vraiment difficile.
D'accord, ben justement, on va repartir un peu au début de l'histoire de ce film Vous avez dit que vous avez attendu 13 ans pour avoir les droits d'auteur. Quel était un peu le parcours? Comment vous n'avez pas une formation de cinéaste a priori. Comment, à partir du moment où on se dit, on lit un livre, on se dit c'est génial, je veux faire un livre, comment vous avez réussi à mobiliser une équipe, à mobiliser de l'argent, à trouver un acteur et pas le moindre, puisque c'est Philippe Noiret, etc.
Donc, d'abord, j'avais fait une école de cinéma, hein, une petite école de cinéma en France. Moi, j'ai toujours voulu écrire. Mais bon, comme la langue française n'est pas ma langue maternelle. Et puis, c'est vrai, j'ai une vie, je ne dis pas difficile, parce que j'avais une vie que j'avais choisie librement. Mais j'avais fait beaucoup de petits boulots, donc mon grand problème, c'était souvent de survivre. Comment payer le loyer, comment manger, etc. Donc, où j'étais peut-être pas assez modeste pour écrire, faire tout pour écrire. Enfin bon, donc j'ai vécu d'une manière un petit peu en dents de scie, comme ça, la période faste et moins faste. Et puis j'avais fait une école de cinéma, un peu par hasard, parce que j'étais mariée avec un garçon qui voulait faire une école de cinéma, et il l'a pas fait, donc moi, pour le pousser, j'ai essayé de faire le concours, j'ai obtenu une bourse, et j'ai fait une école de cinéma de 2 ans. C'était une école qui n'avait pas beaucoup d'argent, donc il y a un scénario qui était choisi pour tourner, des scénarios je crois qui étaient choisis pour tourner le court-métrage. Et donc les miennes, donc j'ai réalisé un court-métrage et je voulais faire un film un peu comique, et c'était d'un tragique total. Donc je me suis dit, je ne suis pas doué pour la réalisation, et puis j'abandonnais l'idée. Et j'ai travaillé dans le cinéma, j'ai fait beaucoup de choses. La production, l'organisation, le casting, même les costumes, les décors, accessoiristes, la documentaliste, c'était passionnant. Donc j'ai fait beaucoup de choses, j'ai vu comment les films se font, j'ai organisé le tournage de long métrage en Italie, en Afrique, je suis allé en Inde dans les archives, enfin bon, j'ai vécu quand même beaucoup d'années de mon travail dans le cinéma. Et puis quand en 80 je lis le livre, je savais que je ferais le film comme réalisateur. Je ne sais pas pourquoi.
Vous avez contacté directement Boumil Rabal
ou... Boumil Rabal, je lui avais écrit. J'ai lu le livre, je suis arrivée à Rome et j'ai commencé à le traduire en français pour moi. J'ai mis un an. Puis après, j'ai commencé à écrire un scénario. Le premier scénario était en noir et blanc, très philosophique, avec beaucoup de citations, un peu de grands philosophes. Un peu, je crois, prétentieux comme scénario. Et puis, j'ai écrit une deuxième version, une troisième version. Et j'écrivais à Boumil Rabal en lui disant que j'aimerais bien adapter une trop brillante solitude. Et je ne recevais pas de réponse. Et en 1986, c'est la première fois que j'ai pu rentrer en République tchèque au bout de 19 ans de, je sais pas, oui, 19 ans d'exil. J'ai pu rentrer en République tchèque. Et à l'époque, je travaillais avec un cinéaste suédois qui faisait des films publicitaires surtout, mais de très beaux films. C'était une star aux États-Unis, en Allemagne. Mais pas typiquement publicitaire, très poétique, très particulier. Je travaillais beaucoup avec lui, je faisais tout, organiser les films, les costumes, les castings, enfin c'était passionnant, j'ai beaucoup appris avec lui, et esthétiquement et au niveau de rigueur du travail. Et à un moment, j'en pouvais plus parce qu'on arrêtait, c'était une star et il voulait que je m'occupe de tout. Donc il me donnait les dessins, le storyboard de film. Et puis moi j'amenais, j'organisais le tournage toute seule, c'était vraiment, j'en pouvais plus. Et donc j'ai dit je vais arrêter, il faut que je m'occupe d'une trop brillante solitude. Et puis j'ai arrêté de travailler avec lui, et puis je n'avais plus d'argent. Et puis il m'a proposé en juillet 87, me disant écoute je vais travailler à Munich. J'ai fait 3 films pour la télévision allemande, 3 courts films. Est-ce que tu ne pourrais pas venir faire le décor en Allemagne? Et moi, je dis, je ne parle pas allemand. Il me dit, ça fait rien, on te donnera une assistante. Enfin, il voulait absolument que je travaille avec lui. Et moi, je me suis dit, ma mère habite à 300 km de Munich. Je pourrais aller les week-ends quand on ne travaille pas en République tchèque. Donc, j'ai accepté. Et j'ai téléphoné à ma mère en disant si elle pouvait trouver quelqu'un qui porterait une lettre à Bohumil Hrabal dans ses mains, que je voudrais vraiment, dans ma tête, je me disais maintenant il faut que je me lance, il faut que je combat pour une trouver en solitude. Et ma mère me dit, c'est étrange, alors je devais travailler de 1er au 21 juillet en Allemagne. Et ma mère m'a dit, c'est étrange, le Bohumil Hrabal sera à Františkovy Lázně de 1er au 21 juillet.
Donc c'était le destin, on va dire.
Voilà, et donc je l'ai rencontré, et c'était très amusant. J'avais très peur de lui, parce qu'il était très particulier, très adorable, mais il était un peu, on dit plachy, en tchèque, c'est pas tout à fait timide, un peu sauvage. À premier abord, donc quelquefois il agressait par une sorte de timidité, et quand vous le connaissiez, l'être le plus généreux, adorable, vraiment cultivé, formidable. Et donc je l'ai rencontré, je lui ai dit je voudrais bien adopter une trouble en solitude. Il me dit oui, tout le monde voudrait adopter une trouble en solitude, pour qui tu te prends? Moi je dis je me prends pour personne, mais j'ai une certitude intérieure que c'est moi qui le ferai, parce que j'ai une... J'ai l'impression que, comme si ça m'a été dicté. Il me dit, Heidegger, dictat de Dieu, pareil, moi ça m'était dicté aussi. Tu m'intéresses. Et il me dit, tiens, je vais te faire des tarots. Il me fait des tarots et il me dit, écoute, tu feras le film, il sera beau, mais les droits, je ne peux pas te les donner, je les ai vendus. Alors j'ai appris, il y avait plusieurs réalisateurs avant moi qui ont eu les droits.
Et Menzel aussi ou
et Menzel, il a eu, à la fin, il y avait le István Szabó. Après, il y avait, je ne sais plus, il y en avait plusieurs, il y avait Evel Chorm, le grand réalisateur tchèque. Et quand Chorm est décédé, Hrabal m'a fait savoir que les droits sont libres. Donc, je suis arrivé à Prague tout de suite. Et j'ai dit à Hrabal, qu'est-ce qu'on fait? On signe quelque chose. Ah, je ne signe rien, tu te débrouilles, tu vas voir mon agent. Donc, je vais voir à son agent. Et ils me disent, mais M. Hrabal se trompe, c'est pas lui qui a des droits, c'est Barrandov. Parce qu'Evel Chorm ne les avait pas en tant que personne, mais en tant que Barrandov. Et Barrandov a commandé le film à Jiří Menzel. Et donc je suis allé voir Jiří Menzel et je lui dis, vous ne ferez pas le film. Il me dit, vous ne m'aimez pas. Je dis, non, c'est pas ça, j'ai une certitude intérieure. Tout le monde me prenait pour une folle. Et puis je dis, vous allez voir, vous ferez autre chose. Et c'était vrai, à un moment, lui, il a abandonné l'idée de faire le film, et il m'a beaucoup aidé, il était extrêmement noble, parce qu'il a demandé en France, avant ses recettes, pour son soldat Chonkin, et moi, en même temps, je présentais le scénario à l'avant ses recettes pour une trouble en solitude. Alors la commission, je ne connaissais personne, je ne suis pas du tout, je suis très marginal, je ne suis pas... introduit dans le milieu cinéma. Je travaillais toujours un petit peu, pas dans le grand cinéma, ce qu'on dit. Et donc les gens de la commission disaient qu'ils aiment beaucoup mon scénario, mais qu'ils ne sont pas sûrs si je serais capable de réaliser un tel film. Et Menzel, j'ai appris ça après, il avait dit, je la connais, je pense qu'elle peut le faire.
Et c'est avec ce panorama que s'achève l'émission de ce mardi 24 juin. Merci d'avoir suivi notre programme qui vous a été présenté par Léna Sabadell pour ses débuts de présentatrice radio. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en visitant le site internet de Radio Prague, www.radio.cz/fr. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.